Chapitre 11. Introduction à la régulation des graisses. Nous allons maintenant nous pencher sur les facteurs biologiques qui régulent la quantité de graisse contenue dans notre tissu adipeux, mais aussi sur l'impact de l'alimentation sur cette régulation, de manière à connaître les aliments nuisibles et à les éviter. Il est important de distinguer ce qui détermine notre nature, pourquoi nous sommes prédisposés à grossir ou à rester minces, et ce qui, relevant de la nutrition ou du style de vie, peut être modifié pour influer sur cette prédisposition ou la combattre. Dans ce chapitre, je vais aborder les bases de la biologie et de l'endocrinologie. Il se peut que nous ne progressions pas assez vite à votre goût, mais je peux vous assurer que si vous écoutez attentivement, vous acquérerez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les causes de la prise de poids, ainsi que sur les moyens de la combattre. Les données scientifiques que je vais présenter sont issues de travaux de recherche menés entre les années 1920 et 1980. À aucun moment, elles n'ont donné lieu à des controverses particulières. Les scientifiques qui ont réalisé ces travaux étaient, et sont toujours, convaincus de l'exactitude de leurs découvertes. Mais le problème qu'ont rencontré ces données a été, comme j'espère avoir réussi à l'expliquer de façon intelligible, que les chefs de file de l'obésité, ceux qui n'étaient ni psychologues ni psychiatres, ont fini par croire que ce qui faisait grossir les gens, c'était la suralimentation et la sédentarité, et qu'en conséquence, ils se sont désintéressés de toute autre possibilité d'aborder le sujet, y compris des sciences étudiant la façon dont est régulé le tissu adipeux. Parfois même, ils ne se sont pas contentés d'ignorer ce qui sortait de leur schéma de pensée, mais ont combattu activement certains travaux parce que ce qu'ils impliquaient ne leur convenait pas. J'y reviendrai plus tard. Mais ce comportement d'autruche ne change rien au fait que la régulation de notre tissu adipeux est en réalité tout sauf insignifiante, car c'est d'elle que dépend notre corpulence, quelle qu'elle soit. Les bases. Pourquoi on grossit ? Petite question. Pour quelles raisons notre organisme commence-t-il à faire des réserves de graisse ? Certes, une partie de notre graisse corporelle nous isole du froid, et une autre partie sert de rembourrage à nos structures internes les plus fragiles, mais qu'en est-il du reste ? Qu'en est-il, par exemple, des bourrelets localisés au niveau de la taille ? Généralement, les spécialistes considèrent que l'accumulation de graisse sert pour ainsi dire d'économie à long terme, qu'il s'agit d'une sorte de compte épargne-retraite dans lequel le corps ne puise qu'en cas de besoin absolu. L'idée est que l'organisme s'empare des calories superflues et les met de côté sous forme de graisse et qu'elles restent stockées dans le tissu adipeux jusqu'à ce qu'un jour, la personne atteigne, parce qu'elle fait un régime, qu'elle a repris une activité physique ou, qui sait, s'est échouée sur une île déserte, un degré de sous-alimentation tel que son corps mobilise ses réserves et s'en serve comme carburant. Pourtant, on sait depuis les années 1930 que cette conception n'est pas exacte, loin s'en faut, car nos cellules adipeuses libèrent en permanence de la graisse, qui circule dans notre organisme pour y être utilisée comme carburant et qui, si elle n'est pas brûlée, retourne dans les adipocytes. Ce phénomène se produit en continu, indépendamment du fait que nous venons peut-être de manger ou de faire du sport. En 1948, une fois que la science eut décrit ce phénomène en détail, Hans Wertheimer, biochimiste allemand émigré en Israël, considéré comme le père de la recherche sur le métabolisme des graisses, décrivit ce processus en ces termes. La mobilisation et le stockage de la graisse constituent un processus continu, sans aucun rapport avec l'état nutritionnel de l'animal. Au cours d'une période de 24 heures, la graisse expulsée par nos adipocytes fournit une partie significative du carburant que nos cellules brûlent pour en tirer de l'énergie. La raison pour laquelle les nutritionnistes pensent et affirment volontiers que les glucides sont le carburant préféré de notre organisme, ce qui est pourtant absolument faux, est que nos cellules brûlent ces glucides avant les graisses. Mais il s'agit d'une priorité, non d'une préférence. Car c'est en brûlant les glucides avant les graisses que notre corps maîtrise notre glycémie, notre taux de sucre sanguin après les repas. Notons déjà que les cellules de quelqu'un qui mange beaucoup de glucides, comme c'est le cas de la plupart des gens, auront beaucoup de glucides à brûler avant de pouvoir exploiter la graisse. Supposez que vous mangiez un repas standard, associant donc des glucides et des graisses ou lipides. Une fois digérés, les lipides sont acheminés directement vers vos adipocytes, où ils sont temporairement mis de côté pendant que votre organisme s'occupe des glucides qui exigent une action plus immédiate. Une fois digérés à leur tour, ces glucides se retrouvent dans le sang sous forme de glucose. Il existe un glucide un peu spécial appelé fructose, sur lequel je reviendrai plus tard. Dans votre corps tout entier, des cellules vont se mettre d'une part à brûler ce glucose pour le transformer en énergie et d'autre part à l'utiliser pour reconstituer la réserve de secours. Mais à elles seules, elles ne pourront pas être aussi rapides que l'augmentation de votre taux de sucre sanguin. Il va leur falloir de l'aide. C'est là que l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, fait son apparition. Parmi les différents rôles qu'elle joue dans le corps humain, l'un des plus importants est de maîtriser la glycémie. La sécrétion d'insuline débute avant même que l'on ne commence à manger, car elle est stimulée par le simple fait de penser à manger. C'est une réponse pavlovienne. Elle se produit sans qu'il soit nécessaire d'y penser consciemment. L'insuline prépare d'abord le corps pour le repas qu'il s'apprête à ingérer. Dès les premières bouchées, la sécrétion d'insuline s'intensifie, et elle s'intensifie encore davantage lorsque le glucose du repas commence à affluer dans le sang. L'insuline signale alors aux cellules du corps tout entier d'augmenter le rythme auquel elle pompe du glucose hors de la circulation sanguine. Comme je l'ai indiqué, les cellules brûlent une partie de ce glucose pour le transformer immédiatement en énergie et en stockent une autre partie pour un usage ultérieur. Les cellules musculaires stockent le glucose sous la forme d'une molécule appelée glycogène. Les cellules du foie en stockent également une partie sous forme de glycogène et en convertissent une autre en graisse. Et les cellules adipeuses le stockent sous forme de graisse. Lorsque la glycémie commence à baisser, et avec elle le taux d'insuline, le tissu adipeux libère une quantité croissante de lipides qui ont été stockés durant le repas. C'est tout du moins ce qui est censé se passer, pour prendre le relais. Qu'une partie de cette graisse a débuté dans la vie sous forme de glucides et une autre d'emblée sous forme de graisse, elles deviennent impossibles à distinguer l'une de l'autre une fois qu'elles sont emmagasinées dans les adipocytes, les cellules adipeuses. Plus il s'écoule de temps après un repas, plus l'organisme brûle de graisse et moins il brûle de glucose. La raison pour laquelle nous sommes, ou en tout cas devrions être, capables de dormir durant toute la nuit sans ressentir le besoin de nous lever au bout de quelques heures pour nous jeter sur le frigo, est que la graisse libérée par le tissu adipeux fournit pendant tout ce temps le carburant nécessaire à nos cellules. Plutôt que de considérer le tissu adipeux comme un compte épargne-retraite, il est donc plus approprié de le regarder comme une espèce de portefeuille dans lequel nous mettons en permanence de la graisse, mais duquel nous en retirons également en permanence. Nous grossissons donc légèrement pendant et après chaque repas, car alors il entre davantage de graisse dans nos cellules adipeuses qu'il n'en sort, et mincissons de nouveau légèrement après avoir digéré le repas, pour la raison contraire. Et nous mincissons encore plus en dormant. Dans un monde idéal, un monde où on ne grossirait pas, les calories que l'on stocke sous forme de graisse immédiatement après avoir mangé pendant la journée seraient compensées par celles que l'on brûle également sous forme de graisse après avoir digéré ainsi que pendant la nuit. Pour appréhender ce processus, on peut également considérer que les adipocytes servent de tampon énergétique en constituant dans un premier temps un lieu permettant de stocker les calories que l'on consomme pendant un repas et que l'on n'utilise pas immédiatement, avant de libérer ces calories dans le sang lorsque le besoin s'en fait ressentir, de même qu'un portefeuille permet de ranger l'argent que l'on a retiré au distributeur avant de le libérer de nouveau lorsque l'on en a besoin. Ce n'est que lorsque les réserves de graisse se trouvent réduites à un niveau minimal que réapparaissent la sensation de faim et avec elle l'intention de manger, de même qu'il existe pour chacun un montant d'espèces minimum au-dessous duquel il va chercher de l'argent au distributeur pour regarnir son portefeuille. Au début des années 1960, le physiologiste suisse Albert Reynolds, devenu à la suite d'Ernst von Thymer la figure prééminente de l'étude du métabolisme des graisses, décrivit le phénomène comme suit. « Notre tissu adipeux, écrivit-il, est le site principal de régulation active de stockage et de mobilisation d'énergie, l'un des mécanismes majeurs de contrôle responsable de la survie de n'importe quel organisme. Le fait qu'en permanence, des lipides entrent et sortent des adipocytes n'explique cependant pas comment ces derniers décident quels sont ceux qui peuvent entrer ou sortir, ni quels sont ceux qu'ils destinent à rester en réserve. En fait, cette décision se fonde sur un motif extrêmement simple, la forme de la molécule lipidique. En effet, notre graisse corporelle existe sous deux formes distinctes, servant à des fins totalement différentes. Celle qui entre et sort des adipocytes le fait sous forme de molécules appelées acides gras. Et c'est également sous cette forme que notre organisme la brûle pour produire de l'énergie. À l'inverse, nous la stockons sous forme de molécules appelées triglycérides, car elle se compose de trois acides gras, d'où le préfixe tri, relié à une molécule de glycérol. La raison de cette distribution des rôles est elle aussi étonnamment simple. Les triglycérides sont trop gros pour passer à travers les membranes qui entourent chaque adipocyte, tandis que les acides gras sont suffisamment petits pour pouvoir se glisser assez facilement à travers ces membranes. Consultez l'annexe, schéma numéro 4. Entrant et sortant en permanence des cellules adipeuses, les acides gras peuvent être brûlés à tout moment pour générer de l'énergie. Et c'est en tant que triglycéride que la graisse est fixée à l'intérieur des adipocytes, où elle est mise de côté pour un usage futur. C'est également pour cette raison de calibre que les triglycérides ne peuvent être construits, le terme technique est « estérifiés », à partir de leurs composants, les acides gras, qu'à l'intérieur des adipocytes. Lorsqu'un acide gras entre dans un adipocyte, ou est créé à l'intérieur de ce dernier en étant arraché à une molécule de glucose, il est associé à une molécule de glycérol et à deux autres acides gras pour constituer un triglycéride, molécule trop volumineuse pour sortir de l'adipocyte. Les trois acides gras se trouvent donc prisonniers de la cellule adipeuse, et ils le resteront jusqu'à ce que le triglycéride soit dissocié ou se désagrège. Ils pourront alors s'extraire de la cellule et retourner dans la circulation du sang. S'il vous est déjà arrivé de faire l'acquisition d'un meuble pour vous rendre compte en arrivant chez vous qu'il était trop grand pour passer par la porte de la pièce à laquelle il était destiné, vous voyez sans doute de quoi je veux parler. On démonte le meuble quand c'est possible, on fait passer la porte aux pièces détachées et on remonte le tout à l'intérieur de la pièce. Et en cas de déménagement, on recommence en sens inverse. En conséquence, tout ce qui favorise l'afflux d'acides gras dans les adipocytes, où ils peuvent être associés pour former des triglycérides, favorise le stockage des graisses et donc la prise de poids. Et tout ce qui permet de décomposer ces triglycérides et de les faire retourner à l'état d'acides gras, qui peuvent alors s'échapper des cellules adipeuses, permet de mincir. Vous voyez, c'est un processus plutôt simple, et comme l'avait souligné Edwin Astwood il y a un demi-siècle, il existe des douzaines d'hormones et d'enzymes jouant un rôle dans ces processus. Et il est donc très facile d'imaginer de possibles perturbations entraînant un afflux excessif de lipides dans les cellules et une excrétion insuffisante. L'hormone qui régit ce système complexe est l'insuline. Pointée par Astwood il y a presque 50 ans, ce fait n'a jamais suscité de controverse. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est principalement en réponse aux glucides absorbés à travers notre nourriture que nous sécrétons de l'insuline, et ce processus a pour but principal de maîtriser notre glycémie. Mais l'insuline orchestre aussi simultanément le stockage et l'exploitation de la graisse et des protéines. Elle veille par exemple à ce que suffisamment de protéines parviennent à nos cellules musculaires pour reconstruire et réparer ce qui doit l'être, et à ce que nous emmagasinions assez de carburant, sous forme de glycogène, de graisse, mais aussi de protéines, pour fonctionner efficacement entre les repas. Et comme l'un des emplacements où nous conservons des carburants en vue d'un usage ultérieur est notre tissu adipeux, l'insuline est le principal régulateur du métabolisme des graisses. Pour reprendre les termes utilisés en 1965 par Salomon Burson et Rosalind Yalow, les deux scientifiques qui inventèrent la technologie nécessaire pour mesurer les taux d'hormones dans le sang, et à qui l'on doit une grande partie des recherches dans ce domaine. Yalow obtint plus tard le prix Nobel pour ses travaux, Burson étant décédé entre-temps. C'est essentiellement à travers deux enzymes que l'insuline accomplit son action. Le premier est la LPL, lipoprotéine lipase, que j'ai évoqué précédemment lorsque j'ai abordé la façon dont des rats devenaient obèses lorsqu'on les privait de leurs ovaires. La LPL est l'enzyme qui, se trouvant sur les membranes de différentes cellules, transfère dans ces cellules la graisse qui circule dans le sang. Lorsque la LPL se trouve à la surface d'un myocyte, cellule de muscle, elle dirige la graisse vers le muscle pour qu'il l'utilise comme carburant. Lorsqu'elle se trouve sur un adipocyte, elle le rend encore plus gras. La LPL décompose les triglycérides présents dans le sang. Ils redeviennent alors des acides gras, et ce sont ces acides gras qui pénètrent dans la cellule. Comme je l'ai déjà mentionné, l'hormone sexuelle féminine qu'est l'œstrogène réprime l'activité de la LPL dans les adipocytes, et contribue ainsi à réduire l'accumulation de graisse. La LPL fournit une réponse simple à une grande partie des questions posées plus haut concernant les endroits du corps et les moments où l'on grossit. Pourquoi hommes et femmes grossissent-ils différemment les uns des autres ? Parce que la répartition de la LPL est différente chez chacun de nous, de même que l'influence des hormones sexuelles sur la LPL. Chez l'homme, l'activité de la LPL est la plus forte dans le tissu adipeux de l'abdomen. C'est pourquoi les hommes ont tendance à prendre du ventre. Et elle est faible dans le tissu adipeux situé au-dessous de la taille. Une des raisons pour lesquelles les hommes grossissent au-dessus de la taille en prenant de l'âge est qu'ils sécrètent moins de testostérone, hormone sexuelle mâle, et que la testostérone supprime l'activité de la LPL dans les cellules adipeuses de la région abdominale. Moins de testostérone signifie une activité accrue de la LPL dans les adipocytes de l'abdomen, et donc davantage de graisse. Chez la femme, la LPL a une activité forte dans les cellules adipeuses situées au-dessous de la taille et faible dans les adipocytes de l'abdomen. C'est pourquoi les femmes ont tendance à grossir au niveau des hanches et des fesses. Mais après la ménopause, l'activité de la LPL augmente dans la graisse abdominale jusqu'à atteindre le même niveau que chez l'homme, ce qui explique que les femmes tendent alors également à accumuler de la graisse superflue au niveau de l'abdomen. Pendant une grossesse, l'activité de la LPL augmente au niveau des fesses et des hanches, car c'est là que la femme stocke les calories dont elle aura besoin plus tard pour allaiter son enfant. De plus, l'accumulation de graisse en dessous de la taille et sur la face postérieure du corps compense le poids croissant du fœtus sur la face antérieure du ventre maternel. Après l'accouchement, l'activité de la LPL baisse de nouveau au-dessous de la taille. La femme qui a accouché perd la graisse superflue qu'elle avait emmagasinée durant sa grossesse, ou tout du moins une grande partie, tandis que l'activité de la LPL augmente dans ses glandes mammaires car la graisse ainsi accumulée contribue à produire le lait maternel. La LPL fournit également une excellente réponse à la question de savoir pourquoi on ne perd pas de graisse grâce à l'exercice physique. Lorsqu'une personne se dépense physiquement, l'activité de la LPL diminue dans ses cellules adipeuses, mais augmente dans ses cellules musculaires. Cela suscite une libération de graisse hors de son tissu adipeux, graisse qui peut alors être brûlée dans les cellules musculaires qui ont besoin de carburant. La personne mincit légèrement. Jusqu'ici, tout va bien. Mais après l'exercice, la situation s'inverse. L'activité de la LPL cesse dans les myocytes, mais monte en flèche dans les adipocytes, et ces derniers engrangent de nouveau la graisse qu'ils avaient perdue durant l'entraînement, et la personne regrossit. Cela explique également pourquoi l'activité physique donne faim. Non seulement les muscles ont un besoin urgent de protéines pour se réapprovisionner et se reconstruire après l'entraînement, mais l'organisme se réapprovisionne aussi activement en graisse. Le reste du corps tente de compenser cette ponction d'énergie et l'appétit augmente. L'insuline étant le principal régulateur du métabolisme des graisses, il n'est pas surprenant qu'elle soit également le principal régulateur de l'activité de la LPL. L'insuline active la LPL dans les adipocytes, notamment dans ceux qui sont situés dans l'abdomen. Plus nous sécrétons d'insuline, plus la LPL est active dans les adipocytes, et plus il y a de graisse détournée de la circulation sanguine vers ces adipocytes pour y être stockée. Par ailleurs, l'insuline supprime l'activité de la LPL dans les myocytes, faisant en sorte que ceux-ci aient peu d'acide gras à brûler. L'insuline ordonne également aux myocytes, ainsi qu'à d'autres cellules, de ne pas brûler les acides gras mais de continuer à brûler du glucose à la place. Cela signifie que si le taux d'insuline est élevé lorsque des acides gras sortent d'un adipocyte, ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant par les myocytes, mais vont réintégrer le tissu adipeux. L'insuline influence également une enzyme dont nous n'avons pas encore parlé, la lipase hormonosensible, ou HSL. Et cette action est peut-être encore plus déterminante pour la façon dont l'insuline régule la quantité de graisse que nous stockons. De la même façon que la LPL agit pour faire engraisser nos cellules adipeuses, et donc nous-mêmes, l'HSL agit pour faire mincir ces mêmes cellules. Et de nouveau, nous aussi. Pour ce faire, elle décompose les triglycérides à l'intérieur des adipocytes, les faisant retourner à l'état de leurs composants, les acides gras, qui peuvent alors repartir dans la circulation sanguine. Plus cette HSL est active, plus nos cellules libèrent de graisse, qui peut alors être brûlée pour produire de l'énergie, et en toute logique, moins nous en stockons. Or, l'insuline supprime cette enzyme HSL, empêchant ainsi les triglycérides d'être décomposés à l'intérieur des adipocytes, et maintenant à un niveau minimum le flux d'acide gras sortant de ces adipocytes. Or, il n'y a pas besoin de beaucoup d'insuline pour inhiber l'HSL. Il suffit donc que notre taux d'insuline soit ne serait-ce qu'un peu élevé pour que les lipides s'accumulent dans nos adipocytes. De plus, l'insuline déclenche dans les adipocytes un mécanisme d'absorption du glucose, un phénomène qui concerne d'ailleurs également les myocytes, ce qui augmente la quantité de glucose que les adipocytes métabolisent. Ce processus augmente à son tour la quantité de molécules de glycérol, un sous-produit du métabolisme du glucose, présente dans les cellules adipeuses, et ces molécules peuvent être alors associées à des acides gras pour constituer des triglycérides, ce qui a pour résultat une augmentation de la graisse stockée. Afin que l'organisme dispose concrètement de suffisamment de place pour emmagasiner toute cette graisse, l'insuline a également pour tâche de créer de nouveaux adipocytes lorsque les adipocytes existants sont prêts d'être remplis. L'insuline informe également les cellules du foie qu'au lieu de brûler les acides gras, elles doivent les reconditionner sous forme de triglycérides et les renvoyer vers le tissu adipeux. Et elle déclenche même la conversion directe de glucides en acides gras dans le foie et dans le tissu adipeux. Il faut toutefois souligner que l'ampleur de ce phénomène chez l'être humain, par opposition au rat de laboratoire, fait encore débat. Pour résumer, tout ce que l'insuline fait dans ce contexte œuvre à augmenter la quantité de graisse que l'organisme stocke et à diminuer celle qu'il brûle. L'insuline a un effet adipogène, elle nous rend plus gras. À l'annexe, vous trouverez la photo 5, extraite de l'ouvrage de Stephen Nussley et Saffron Whitehead, Endocrinology, an Integrated Approach, Endocrinologie, une approche intégrée. Photo qui illustre de façon particulièrement parlante l'effet adipogène de l'insuline. Elle a pour légende les effets de l'insuline sur le tissu adipeux. La femme partiellement représentée sur cette photo a développé le diabète de type 1 à l'âge de 17 ans. La photo a été prise 47 ans plus tard. Pendant ces 47 années, cette femme s'est injectée fidèlement sa dose quotidienne d'insuline, toujours au même endroit, en haut des cuisses. Et il s'est peu à peu formé sur chacune de ses cuisses une boule de graisse de la taille d'un melon, un phénomène n'ayant à l'évidence rien à voir avec la quantité d'aliments que cette femme a ingérés, mais étant uniquement dû à l'effet adipogène de l'insuline. Gardez à l'esprit qu'il a fallu à cette femme presque 5 décennies pour accumuler ces disgracieux dépôts graisseux. L'évolution a donc sans doute été à peine perceptible pour elle, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous lorsque nous prenons du poids. Cette photo donne une idée de ce qui se produit lorsque le taux général d'insuline de notre organisme augmente. C'est la raison pour laquelle les diabétiques prennent souvent du poids lorsqu'ils suivent une insulinothérapie. Cette prise de poids résulte de l'effet adipogène direct de l'insuline sur le tissu adipeux, indépendamment de l'alimentation. Comme l'explique Jocelyn Diabetes Mellitus, manuel faisant autorité aux États-Unis en matière de diabète. Une étude publiée en 2008 par le New England Journal of Medicine a montré que les diabétiques de type 2, suivant une insulinothérapie intensive, prenaient en moyenne 3,5 kg sur 3 ans et demi et que, sur la même période, presque un tiers de ces patients prenaient plus de 9 kg. Étant donné que le taux d'insuline sanguin est déterminé en premier lieu par les glucides que l'on consomme, à la fois par leur quantité et par leur qualité, comme nous le verrons plus tard, ce sont ces glucides qui déterminent en fin de compte la quantité de graisse que l'on accumule. Voici comment s'enchaînent les événements. Vous imaginez que vous mangez des aliments contenant des glucides. Tout d'abord, vous commencez à sécréter de l'insuline. L'insuline envoie aux adipocytes le signal d'arrêter de libérer des acides gras, en inhibant l'HSL, la lipase hormonosensible, et d'en extraire davantage de la circulation sanguine, via la LPL. Ensuite, vous commencez à être affamé, ou plus affamé qu'avant. Ainsi, vous commencez à manger. Et puis, vous sécrétez plus d'insuline. Une fois digéré, les glucides se retrouvent dans le sang sous forme de glucose et entraînent une augmentation de votre glycémie. Alors, vous sécrétez encore plus d'insuline. De plus, la graisse des aliments est stockée dans vos cellules adipeuses sous forme de triglycérides. C'est également le cas d'une partie des glucides, transformée en graisse par votre foie. Donc, vos cellules adipeuses engraissent. Vous aussi. Enfin, la graisse reste à l'intérieur des cellules adipeuses jusqu'à ce que le taux d'insuline baisse. L'insuline est-elle la seule hormone à nous faire prendre du poids? La réponse est oui, à une unique mais importante exception. Découverte à la fin des années 1980, l'hormone connue sous le nom de protéine stimulant l'acylation, ou ASP, constitue quant à elle presque assurément une exception dénuée d'importance. L'ASP est sécrétée par le tissu adipeux lui-même, un processus régulé au moins partiellement par l'insuline. On peut considérer que l'action des hormones est de donner au corps l'ordre de faire quelque chose. Grandir et se développer, hormones de croissance, se reproduire, hormones sexuelles, fuir ou combattre, adrénaline, etc. Elles mettent également à la disposition du corps le carburant nécessaire à ces diverses actions, notamment en envoyant au tissu adipeux le signal de mobiliser les acides gras, et de les rendre disponibles pour être brûlés. Par exemple, nous sécrétons de l'adrénaline en réponse à ce que nous percevons comme une menace. Elle nous prépare à fuir ou à combattre en cas de besoin. S'il vous fallait fuir devant, disons, un lion qui vous attaque, et si vous ne disposiez pas immédiatement du carburant nécessaire pour courir plus vite ou plus loin, ou les deux, que le lion, celui-ci vous attraperait. C'est pourquoi, au moment où vous voyez le lion, vous sécrétez de l'adrénaline qui, entre autres choses, transmet à vos tissus adipeux le signal d'envoyer des acides gras dans votre sang. Et ce sont ces acides gras qui, idéalement, vous fournissent tout le carburant dont vous avez besoin pour fuir. Dans ce sens, toutes les hormones, sauf l'insuline, peuvent libérer de la graisse de notre tissu adipeux. Elles nous font donc mincir, au moins temporairement. Mais ces autres hormones peinent à extraire de la graisse du tissu adipeux lorsque le taux d'insuline sanguin est élevé. L'effet de l'insuline l'emporte sur les effets d'autres hormones. C'est d'ailleurs tout à fait rationnel, car lorsqu'on est en présence d'un taux élevé d'insuline, cela signifie, normalement, qu'on est également en présence d'un fort taux de glucides pouvant être brûlés, c'est-à-dire que la glycémie est élevée, et que l'on n'a donc pas besoin que des acides gras viennent entraver ce processus. Par conséquent, ces autres hormones n'extraient de la graisse du tissu adipeux que lorsque le taux d'insuline est faible. Elles fonctionnent en stimulant la HSL pour décomposer les triglycérides, mais la HSL est si sensible à l'insuline que ces autres hormones ne peuvent l'emporter sur son action. La seule exception significative est le cortisol, l'hormone que nous sécrétons en réponse au stress ou à l'anxiété. L'action du cortisol est d'introduire de la graisse dans notre tissu adipeux, mais aussi de l'en faire sortir. Il l'introduit en stimulant l'enzyme LPL, lipoprotéine lipase, comme le fait l'insuline, ainsi qu'en causant ou en aggravant un phénomène appelé insulinorésistance, sur lequel je reviendrai au chapitre suivant. Une personne insulinorésistante sécrète plus d'insuline et stocke plus de graisse qu'une personne qui ne l'est pas. Ainsi, le cortisol nous fait stocker de la graisse à la fois de façon directe à travers la LPL et indirecte à travers l'insuline. Mais il fait également sortir de la graisse de nos cellules adipeuses, et ce, essentiellement en stimulant la HSL, exactement comme les autres hormones. Le cortisol peut donc nous faire grossir encore plus lorsque notre taux d'insuline est élevé, mais aussi, comme toutes les autres hormones, nous faire mincir lorsque notre taux d'insuline est faible. C'est peut-être là l'explication de ce que certaines personnes prennent du poids lorsqu'elles sont stressées, anxieuses ou déprimées, et qu'elles mangent plus, tandis que chez d'autres personnes, c'est le contraire qui se produit. Tout cela est connu, mais a été très généralement ignoré, depuis plus de 40 ans. Ce qu'il faut faire impérativement si l'on veut mincir, autrement dit si l'on veut faire sortir des lipides de son tissu adipeux et les brûler, c'est baisser son taux d'insuline, et pour commencer, en sécréter moins. En 1965, Yalow et Burson formulèrent cela ainsi. Extraire de la graisse du tissu adipeux, puis la brûler pour produire de l'énergie, écrivirent-ils, ne demande que le stimulus négatif d'une carence en insuline. Une personne qui parvient à faire baisser suffisamment son taux d'insuline, à produire le stimulus négatif d'une carence en insuline, va pouvoir brûler sa graisse corporelle. Une personne qui n'y parvient pas ne verra pas fondre ses bourrelets. Lorsque nous sécrétons de l'insuline, ou lorsque notre taux d'insuline sanguin est anormalement élevé, nous accumulons de la graisse dans notre tissu adipeux. Voilà ce que la science nous enseigne. Les implications. J'ai évoqué plus haut le cycle de stockage et de brûlage de graisse sur 24 heures. Le jour, nous mettons de la graisse en réserve, pendant notre digestion, en raison de l'effet des glucides sur l'insuline, puis nous en déstockons dans les heures qui s'écoulent avant le repas suivant, ainsi que la nuit pendant notre sommeil. Idéalement, la graisse que nous accumulons pendant les phases de stockage diurne est contrebalancée par celle que nous libérons pendant les phases de brûlage nocturne, et en définitive, c'est l'insuline qui contrôle ce cycle, car, ne l'oublions pas, lorsque le taux d'insuline augmente, nous stockons de la graisse, tandis que lorsqu'il baisse, notre organisme mobilise la graisse et l'utilise comme carburant. Ceci suggère que tout ce qui nous fait sécréter plus d'insuline que ne le prévoit la nature, ou qui maintient les taux d'insuline élevés plus longtemps que ne le prévoit la nature, allonge les périodes pendant lesquelles nous stockons de la graisse et raccourcit celles pendant lesquelles nous en brûlons. Or, comme nous l'avons vu, le déséquilibre qui en résulte, davantage de graisse stockée, moins de graisse brûlée, peut n'être que de 20 calories par jour, autrement dit friser l'infinitésimale, et néanmoins conduire à l'obésité en quelques décennies. Mais en allongeant les périodes pendant lesquelles nous stockons de la graisse plutôt que d'en brûler, l'insuline a indirectement un effet supplémentaire. Rappelez-vous, notre organisme dépend des acides gras pour disposer de carburant durant les heures qui suivent un repas, alors que le taux de sucre sanguin redescend à son niveau d'avant le repas. Mais l'insuline réprime le flux d'acides gras issus des cellules adipeuses et donne aux autres cellules de notre corps l'instruction de brûler des glucides. Aussi, lorsque notre taux de sucre sanguin retrouve un niveau sain, notre organisme a-t-il besoin d'un carburant de remplacement? Si le taux d'insuline reste élevé, les lipides ne sont pas accessibles. Pas plus que les protéines, que nos cellules peuvent également utiliser comme carburant en cas de besoin, car l'insuline agit également de façon à ce que la protéine reste stockée dans les muscles. Et nous ne pouvons pas non plus faire appel aux glucides stockés dans notre foie et dans notre tissu musculaire, car l'insuline les garde également sous clé. En conséquence, nos cellules se trouvent privées de carburant et nous ressentons leur faim. Cela peut soit nous inciter à manger plutôt que nous n'avions l'intention de le faire, soit à manger davantage au moment prévu, soit les deux. Comme nous l'avons vu, tout ce qui nous fait grossir nous entraîne à trop manger. et c'est exactement ce que fait l'insuline. Pendant ce temps, notre corps grossit parce que nous stockons de la graisse, et cela augmente nos besoins en carburant. Une personne qui accumule de la graisse développe également du muscle pour pouvoir porter cette graisse, et ce, ici encore, en partie grâce à l'insuline, qui fait en sorte que chaque protéine que nous consommons soit utilisée pour réparer les cellules musculaires et les organes, ainsi que pour augmenter, si nécessaire, la masse musculaire. Ainsi, à mesure que nous accumulons de la graisse, notre besoin énergétique augmente, et par conséquent, notre appétit aussi, et tout particulièrement notre appétit de glucides, car c'est le seul nutriment que nos cellules peuvent utiliser comme carburant lorsque notre taux d'insuline est élevé. C'est un véritable cercle vicieux, et c'est ce cercle vicieux qu'il nous faut éviter. Celles et ceux d'entre nous qui sont prédisposés à accumuler de la graisse ressentent une envie irrépressible de manger précisément les aliments riches en glucides qui vont les faire grossir.